Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, rebonjour, été 2020, osons une plage normande sans masque, osons la moto sans casque, osons un premier amour, osons l'amitié qui tourne à l'amour, osons The Cure. Été 85 sera demain dans les salles, film d'été qui sort dans les salles en cet été particulier. Le réalisateur François Ozon est l'invité de Culture Média dans une dizaine de minutes. Les Indispensables, il y a 10 ans, Prince donnait un concert mémorable au New Morning. À la rentrée sortira le coffret de luxe Sign of The Time, de bonnes raisons pour Fred Goati de nous raconter. Première page, vous découvrez en avant-première le début des romans de la rentrée, ce matin Radical de Tom Conan chez Albin Michel. Prêt pour la seconde heure de Culture Média, le journal de la culture est annoncé, belle matinée sur Europe 1. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
On commence avec des nouvelles du Festival du film francophone d'Angoulême.
Oui, car les responsables du festival, Dominique Besnéard et Marie-France Brière, viennent de dévoiler le nom des longs métrages en compétition cette année. Alors on s'intéressera particulièrement au film L'Ennemi, un polar avec Jérémy Régnier et Emmanuel Berco, mais aussi à Un Triomphe, un film inspiré d'une histoire vraie avec Kad Merad en prof de théâtre qui décide de monter un spectacle en prison. Alors en compétition également Antoinette dans les Cévennes avec Benjamin Lavergne et Laure Calamy, et le premier film de Nicolas Maury, un acteur que vous connaissez sûrement, un acteur révélé par la série 10%, qui va explorer les relations tumultueuses entre une mère et son fils, et la mère étant jouée par Nathalie Baye. Alors, le Festival d'Angoulême, c'est aussi des avant-premières, hors compétition. Alors là, on attend du très beau monde. Les festivaliers vont voir défiler tout le gratin du cinéma français. Alors, sont attendus entre autres Isabelle Huppert, Karine Viard, Virginie Efira, Patrick Bruel, Blanche Gardin ou encore Gérard Depardieu, du très très beau monde. Donc cette année, Angoulême aura un petit air cannois. Le jury sera présidé par Gustave Kervern et Benoît Delépine et le festival se tiendra du 28 août au 2 septembre.
Il manquera la mer quand même. De son côté, le chanteur Pharrell Williams mise sur les jeunes talents.
Oui, le chanteur Happy s'est en effet associé à la plateforme de streaming SoundCloud. Alors ensemble, ils ont lancé pendant le confinement un grand concours pour découvrir la nouvelle star de la musique en leur demandant de s'inspirer de leur quotidien et de cette période si particulière. Alors résultat, des artistes du monde entier ont proposé leurs chansons, 25 000 au total. Et aujourd'hui, 10 finalistes choisis par Pharrell Williams se retrouvent au cœur d'une compilation. Alors il y a beaucoup de rap américain, quelques balades, un peu de musique électro et puis il y a une pépite, cette chanson d'une jeune artiste de Berlin qui s'appelle Ruth. Je vous propose d'écouter. Tous les bénéfices engendrés par l'écoute de la compilation sur SoundCloud iront à des associations qui viennent en aide aux musiciens touchés par la crise du Covid-19. Pharrell Williams, lui, il s'est déclaré enthousiaste à l'idée de poursuivre l'aventure. Et donc, un deuxième concours et une deuxième compilation sont déjà en route.
On dit Ruth ou Ruth ?
Moi, je dis Ruth.
D'accord. Voilà. Et c'est Wake Up As You. Deux disparitions, Damien, ce week-end aux États-Unis.
Oui, une annonce faite cette nuit. Le décès de Benjamin Cale, le fils de Lisa Marie Presley et donc petit-fils du King Elvis, qui est mort à l'âge de 27 ans. Alors, selon les premiers éléments d'information, il s'agirait d'un suicide. C'est en tout cas ce qu'affirme le site américain spécialisé dans les célébrités TMZ. Et puis, ce matin, on a également appris la disparition de Kelly Preston, actrice notamment vue dans Jerry Maguire et Pour l'amour du jeu, avec Kevin Costner. C'est son mari, John Travolta, qui l'a annoncé sur son compte Instagram. Kelly Preston avait 57 ans. Elle luttait depuis 2 ans contre un cancer du sein.
Toujours aux États-Unis, une interview donnée par John Wayne en 1971 fait aujourd'hui polémique.
Oui, parce que ce sont des propos racistes et homophobes tenus par l'acteur dans le magazine Playboy et qui viennent de refaire surface suite au mouvement Black Lives Matter. Alors, dans cet entretien fleuve, le cow-boy le plus connu du cinéma a affirmé croire en la suprématie blanche et déclarer ne ressentir aucune culpabilité concernant le passé esclavagiste de son pays. Alors pour lui, la conquête des terres indiennes était une question de survie et les longs métrages qui traitaient ouvertement d'homosexualité étaient tout simplement à ses yeux des films pervers. Alors ce n'est pas la première fois que John Wayne est au cœur d'une controverse. Fin juin, des démocrates avaient déjà demandé à ce que l'aéroport qui porte son nom et situé dans le comté d'Orange en Californie soit débaptisé. ce à quoi Donald Trump leur avait répondu qu'ils n'étaient que des bons à rien. Mais vendredi dernier, la prestigieuse école de cinéma USC School of Cinematic Arts de Los Angeles a décidé de retirer de ses murs une exposition permanente consacrée à l'idole des westerns.
Autre ambiance, l'Opéra de Paris qui ouvre ses portes pour deux concerts solidaires. On en a dit un mot dans la première heure avec les deux infirmières. Ouais.
Exactement, et c'est donc ce soir et demain la musique qui va exceptionnellement retentir au sein du Palais Garnier. Alors au programme des œuvres de Mozart, Gabriel Fauré, Richard Strauss ou Camille Saint-Saëns, ces deux soirées seront réservées aux abonnés et mécènes de l'opéra, mais également, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à des membres du personnel soignant. Alors, mesures sanitaires obligent, la jauge du Palais Garnier sera réduite à 1000 fauteuils. Mais si vous êtes mélomane et que les grands airs classiques vous manquent cruellement, vous pourrez également profiter de ces concerts depuis votre salon. Ils seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de l'Opéra de Paris. Et la direction musicale sera assurée par le chef d'orchestre Philippe Jordan.
Et l'on termine, Damien, avec ce qui sera peut-être un des tubes de l'été.
Oh bah, en tout cas, si c'est le cas, le musicien sud-africain Master KJ et la chanteuse Nomcebo pourront remercier l'application TikTok, puisque leur chanson Jérusalema est devenue virale en quelques semaines, depuis que des TikTokers, on va les appeler comme ça, dansent sur ce titre afropop. Alors le clip frôle aujourd'hui les 37 millions de vues sur YouTube et le succès est planétaire puisque Jérusalemma cartonne également en Italie, en Belgique, en Suisse, au Danemark, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Portugal. Bref, la liste est trop longue. Sorti en décembre dernier, il aura donc fallu 6 mois à cette chanson pour se transformer en tube planétaire. On en réécoute un extrait ?
Oh bah oui.
Ah ouais.
Ça s'appelle Jérusalemma de Master KJ et de la chanteuse Nomcebo. Merci de m'avoir confié la désannonce. et à demain, Damien Caprespine. François Ozon arrive dans Culture Média. Grâce à lui, on se plonge ou on se replonge dans l'été 85. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Peut-être que, disons, dans 10 ans, vous vous souviendrez que lors de l'été 2020, un été particulier, menaçant et masqué, vous êtes retourné dans une salle de cinéma pour voir le nouveau film signé Ozon, été 85. Bonjour François Ozon.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin en plein été 2020. La question s'est forcément posée pour vous. Fallait-il, oui ou non, sortir votre film lors de cet été particulier ? Le ton sur ton était là emporté ou comment avez-vous considéré la question ?
En fait, la décision s'est prise la veille où Thierry Frémaux a annoncé le label Cannes pour le film. C'est-à-dire que Michel Saint-Jean, le distributeur du film Diafana, m'appelle, me dit « Bon voilà, on fait partie de la sélection du Festival de Cannes qui n'a pas lieu, donc tout est quand même très spécial. » Et il me dit « Qu'est-ce que tu penses de sortir dans la foulée ?» En sachant que le film s'appelle « Été 85 » et qu'on est au mois de... Je crois que c'est au mois de juin qu'on a eu ça. Et j'ai dit « Banco ». Parce que je voyais autour de moi plein de gens qui avaient envie de retourner au cinéma. Moi-même, j'étais en manque de salles. J'en avais ras-le-bol de regarder des séries sur mon ordinateur ou sur des écrans de télé.
Oui,
donc
c'est ça, c'est
je
une
me
question.
Suis dit, il faut y aller. Il y a un moment, la vie reprend, le film se passe l'été, il est prêt, la bande-annonce était prête, l'affiche était prête. Donc on s'est dit, avec toute l'équipe, avec la production, on s'est dit, allez, allons-y.
Avec un sentiment de risque ?
Bien sûr, il y a un sentiment de risque parce que pour l'instant, les habitués sont retournés au cinéma, mais les occasionnels, enfin, j'ai discuté avec Richard Patrick, qui est le directeur de la Confédération des cinémas, il me dit les occasionnels ont encore du mal à revenir parce qu'il n'y a pas une offre de films assez forte. Donc, en ayant fait une tournée un peu dans toute la France, on a vu que les exploitants étaient à fond derrière nous. Ils nous soutiennent, ils ont envie qu'il y ait des films. En plus, il y avait des gros films américains qui devaient sortir cet été. Et vu la situation américaine, ils ne sortiront pas avant je ne sais pas quand.
Ouais,
quand Trump aura trouvé son vaccin, peut-être.
Oui, c'est ça. Ouais, ça veut dire
voilà,
pas tout de
donc,
suite.
Voilà, on se retrouve à essuyer les plâtres. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression, enfin, je suis déjà retourné moi-même au cinéma.
Vous avez vu quoi ?
J'ai vu Elephant Man.
Oui, j'avais donc une nouveauté. Hein.
Voilà. Bah, en même temps, je voulais recommencer par un très bon film, pour être sûr de ne pas me tromper. J'ai vu un petit film allemand qui s'appelait Benny. Et hier, j'ai vu un film américain d'avant le code ACE. Vous savez, il y a une ressortie des films des années 30. Voilà.
Et vous portez le masque en salle ?
Absolument, je l'ai porté. Là, le film hier, je n'ai pas eu besoin parce qu'on était 5-6 dans la salle. Mais Elephant Man, il y avait pas mal de monde. Et puis, c'était par solidarité avec Elephant Man aussi.
Alors, François Ozon, vous l'avez signalé, hein, vous bénéficiez de ce label Cannes 2020. Est-ce que du coup, vous vous êtes mentalement projeté sur ce qu'aurait pu être une présentation de votre film sur la croisette, la montée des marches, entouré de vos deux jeunes comédiens, Félix Lefebvre et Benjamin Voisin? Forcément, vous avez pensé à ça?
Non, parce qu'on a très vite su que le festival n'aurait pas lieu. Bon, à un moment, il y a eu l'hypothèse qu'il se passe au mois de juillet ou même qu'il soit en septembre, octobre repoussé. Et à partir du moment où on a su qu'il n'aurait pas lieu, on a fait le deuil. Moi, je suis triste surtout pour mes jeunes comédiens parce que pour eux, ça aurait été une première fois. Moi, j'ai eu la chance d'y être déjà allé, mais j'aurais adoré qu'ils voient le film sur ce grand écran du Théâtre Lumière à Cannes. Ça aurait été une belle expérience. Mais bon. C'est parti remise.
Bah, ça ne s'est pas passé comme ça, on ne va pas refaire le corona.
Absolument.
François Ozon est ce matin l'invité de Culture Média. On va évidemment parler amplement de ce film Été 85 et on va notamment en parler avec Damien Caprespine, que j'ai salué tout à l'heure, mais qui est toujours en studio. Vous savez, j'ai des compartiments dans la tête. Vous êtes sur Europe 1, à tout de suite. Bon, bah, je vais vous lancer, Damien, ce sera mieux. J'ai envoyé la pub, mais ce n'est pas très très grave. Hein. Pas très grave non plus, on y va. Été 85, teen movie sur la côte normande, premier amour à mort pour Alexis, 16 ans, sauvé d'emblée par David, 18 ans, mais ça va pas durer. Bande son forcément années 80, alors on y va. Damien Caprespine, je vous laisse le jukebox.
Été 85 comporte des jeans taille haute, des marinières et des chemises hawaïennes. Les filles ont des chouchous dans les cheveux. Les garçons ont des dents de requin en pendentif. Robert Smith est notre idole. On se frictionne le crâne au pétrolane. On danse sous des lumières stroboscopiques. On est insouciant. On découvre l'amour. On passe la plus belle nuit de sa vie. En cet été 85, Alexis rencontre David, l'histoire est belle, les classes sociales se mélangent, on cite Verlaine, on aime Rimbaud, on découvre l'amour mais on s'aperçoit que le prince n'est pas forcément charmant. Sous le soleil de la plage du Tréport, les peaux se dévoilent et les galets crissent sous nos pieds. On vit à 100 à l'heure, de préférence sur une moto, on chante du Rod Stewart autour d'un feu de camp.
Ah, il a changé Rod Stewart,
il a changé de voix, c'est marrant ça. Donc là on est sur Jeanne Masse, on va écouter Rod Stewart. I am sailing home again, cross the sea. Voilà, là c'est vraiment Rod Stewart. En 1985, les stars de la pub transforment l'envie en besoin. La France de Tonton découvre le chômage. Une maladie en quatre lettres nous terrorise. Alors pour oublier, on pose sa tête sur l'épaule de son amant. On défie la mort en roulant à gauche sur des départementales. Une robe d'été nous conduira à la morgue. L'été sera beau, l'été sera chaud, mais il sera surtout cruel.
Voilà pour le résumé de ce film. Il vous va le résumé, François?
Ah oui,
parce
bien.
Que bon...
Bravo, non,
faut pas
très
trop
bien.
En dire. Hein
non, il évoque tout en n'allant pas trop dans les profondeurs du film, donc c'est bien. Bon, c'est parfait.
Alors, on sait, parce que vous avez déjà beaucoup parlé de ce film, qu'à l'origine, ça devait être votre premier film, mais il s'est passé d'autres choses. Vous allez nous raconter tout ça. On écoutera quand même The Cure en entier, parce qu'il vaut le coup ce morceau.
Ouais.
Nous sommes plongés dans les années 80 en compagnie de François Ozon. Cette fois, j'envoie la pub. T'es prêt, Romain? Allez, on y va.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Et nous sommes rendus à l'été 85. Le nouveau film de François Ozon sera demain dans les salles. Je vais vous donner l'ensemble du casting, enfin en tout cas Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, deux jeunes comédiens très prometteurs. Également Valéria Bonnet-Tedeschi, Melville Poupeau, Isabelle Nanty et Philippine Welge. On a, grâce à Damien Caprespine, vu un peu le casting musical. Il faut ajouter évidemment la musique de Jean-Benoît Dunkel, moitié du groupe R. Donc là, on a tous les protagonistes à peu près. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a suggéré, c'est un film qui est tiré d'un livre britannique, le britannique Endon Chambers. Le titre en anglais, c'est Dance on My Grave, curieusement traduit par La danse du coucou. Tout part de là, François Ozon ?
Absolument. J'ai lu en 1985, j'avais 17 ans, ce livre, et j'ai eu un coup de foudre pour cette histoire.
Pourquoi ?
Parce qu'elle m'a touché, parce que je pense que les représentations des histoires homosexuelles à l'époque étaient extrêmement négatives, extrêmement dans la douleur, dans la culpabilité. Voilà, les films que je voyais qui parlaient de ça, c'était L'homme blessé de Patrice Chéreau, c'était Querelle de Fassbinder, Cruising de William Friedkin, des films qui n'étaient pas vraiment joyeux, mais qui sont des bons films.
Oui, bons films, mais lourdeur.
Voilà, très grosse lourdeur, et souvent l'idée de la transgression. Et ce que j'aimais dans ce livre, c'est que l'histoire d'amour était extrêmement naturelle, solaire, il y avait quelque chose d'universel. Et c'est ça qui m'avait plu, cette représentation d'un amour différent. Et donc, à l'époque, j'avais 17 ans, donc je n'étais pas encore cinéaste. Je faisais des films, mais en Super 8.
Où étiez-vous, en région parisienne ?
J'étais au lycée, oui.
Ouais.
J'étais en lycée à Paris. Et donc, l'idée de devenir cinéaste, c'était un fantasme, quoi. Enfin bon, à ce moment-là, on ne sait pas exactement encore ce qu'on va faire. Donc, j'avais presque envie plus d'en être le spectateur. Je m'attendais d'ailleurs à ce qu'un réalisateur s'empare de cette histoire et le fasse, notamment un cinéaste américain. Ça me semblait parfait pour un teen movie américain, dans l'esprit des teen movies qu'on voyait à l'époque, parce que j'avais beaucoup aimé Stand By Me, par exemple, ou les films de John Hughes, La folle journée de Ferris Bueller, enfin bon, des films de cet ordre. Et pendant 35 ans, ça n'a... Personne s'en est occupé. Enfin, quand j'ai parlé avec Hayden Chambers, l'auteur du livre qui a 85 ans aujourd'hui, il m'a dit quand même que 3 cinéastes s'y étaient intéressés avant moi. Un Français, un Danois et un Italien. Et qu'à chaque fois, ils n'avaient pas trouvé les moyens financiers pour aller au bout de leur adaptation.
C'était qui le Français ?
Alors le Français, je ne me souviens plus du nom.
Ah.
C'est quelqu'un qui a fait plus des courts-métrages, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il soit passé au long-métrage.
Donc, vous devenez effectivement réalisateur, François Ozon.
Oui, un peu plus tard.
Un peu plus tard, la famille, c'est tout le tralala.
Ouais.
Enfin, vraiment, côté grande porte officielle.
Ouais.
Vous gardez ça en tête ?
Je l'ai en tête, mais je n'ai pas envie de le faire. Peut-être que je ne m'en sens pas capable, parce que peut-être je n'ai pas la distance suffisante. Et en fait, j'y repensais régulièrement, voilà, en me disant, tiens, il faudra que je le fasse un jour. Mais moi, je pense que les films se font quand ils doivent se faire et le désir n'était pas suffisamment fort. Et le désir, en fait, il est revenu après Grâce à Dieu, qui a été un film assez éprouvant à sortir, même si le film a eu du succès et qu'il a fait bouger les lignes.
Récompensé à Berlin aussi. Ouais.
Voilà, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus léger, plus doux, plus solaire. Donc, je suis retombé sur ce livre dans ma bibliothèque, je l'ai relu et je me suis rendu compte que je l'aimais toujours autant. Et je l'ai vu différemment, avec plus de distance, de maturité forcément.
Bah oui, combien d'années ?
35 ans.
Et
donc
je rappelle...
l'adolescent de 17 ans était très très loin et je me suis dit ce serait bien de le retrouver.
Enfin, vous avez senti le moment ?
Voilà, absolument.
Ouais. Vous ne l'auriez évidemment pas fait du tout de la même façon.
Ah, je l'aurais fait très différemment à l'époque, je pense. Ouais.
Mais est-ce qu'on peut, vous savez comment ou...
Je pense que le film aurait peut-être été peut-être moins doux, moins tendre, peut-être moins nostalgique aussi. Voilà, je suis très loin de cet adolescent, donc j'éprouve de la tendresse pour ce personnage et je pense que ça se ressent dans le film.
Mmh. Et c'est comme si vous aviez un petit peu saupoudré. Il y a eu 18 films, hein, c'est ça, au milieu enfin,
c'est possible.
Ouais.
Ouais.
Je crois que c'est le
19e. Je ne les compte pas, oui.
Après, j'en suis pas sûre.
Moi non
peut-être
plus.
Que j'en oublie. C'est comme si vous aviez saupoudré la plupart de vos films de ces thématiques qui auraient pu être initiales, vraies ou pas ?
Alors ça, c'est la surprise. Quand j'ai relu le livre, je me suis rendu compte que j'avais occulté beaucoup de choses qui sont dans le livre et plein de motifs, j'avais l'impression de les avoir traités dans d'autres films, comme si ce film avait infusé inconsciemment en moi. Voilà, il y a la relation d'un élève avec son professeur comme dans la maison, le rapport à la mort, au deuil dans Sous le sable ou... dans voilà, le travestissement dans mon court-métrage Une robe d'été. En fait, ce livre, je pense, m'a suivi et à l'origine de d'autres sujets. Enfin bon, c'est pas par hasard s'il m'a plu. Hein. Je pense que les choses se retrouvent d'une manière ou d'une autre.
Alors, il n'y a pas de raison. On va écouter la chanson phare hein, en entier de votre film Été 85. François Ozon, c'est évidemment The Cure in Between Days. Et puis, on revient après parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Entendre The Cure, In Between Deaths, vous allez voir dès demain le nouveau film de François Ozon, Été 85. Je crois que vous irez le voir, mais avec le masque. Hein. Avec le masque. Bonne matinée à vous. On revient en compagnie de François Ozon.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Récapitulons, le nouveau film de François Ozon, Été 85, qui sera demain dans les salles, aurait pu être tourné il y a 35 ans.
Oui.
Et aussi, il aurait pu s'appeler Été 84.
Absolument.
C'est quoi cette histoire ?
En fait, j'ai tourné le film en pensant qu'il s'appellerait Été 84. Et au moment du montage, il m'a paru évident avec la monteuse d'utiliser ce morceau des Cure que vous avez mis tout à l'heure, In Between Days, qui est un morceau phare de mon adolescence, que j'adore et qui marchait très bien avec le film. Sauf que le morceau date de 1985, de l'été 85. Donc Robert Smith a refusé dans un premier temps de nous céder les droits. Ça prouve qu'il n'est pas intéressé par l'argent. Parce que ce n'était pas un problème d'argent, c'était une question de date. Et moi, je suis tellement fan des Cure que je lui ai écrit ma plus belle lettre et je lui ai dit que j'étais prêt à changer mon titre pour avoir son morceau. Donc, il a accepté. Et en plus, on l'a eu à moitié prix. Donc, voilà. Mes producteurs étaient ravis.
Ça vaut le coup. Donc, on va quand même écouter à quoi ça ressemble. Hein. Extrait d'Été 85. Alex, qui a 16 ans, qui s'appelle Alexis, mais qui préfère qu'on l'appelle Alex, vient d'être sauvé dès le début du film du chavirage de son optimiste. Un optimiste ?
Absolument.
Ouais. Par David qui a 2 ans de plus et qui emmène Alex chez lui et le présente à sa mère, la redoutable Valeria Bruni Tedeschi. Amitié proclamée, écoutez.
Ma réponse la dame.
Quoi ? T'es mon ami ou non ? Tu me demandes si je suis ton ami ?
Moi je crois que t'es mon ami, mais es-tu bien mon ami ?
Mais si tu crois que je suis ton ami, c'est que tu dois être mon ami.
Dans ce cas-là, on peut dire sans trop prendre de risques.
Que je suis bel et bien ton ami.
Voilà.
Tu parles d'un ami qui te laisse travailler ton jour de congé alors que vous devriez être en train de vous amuser, de rigoler, de te reposer un peu.
Maman,
oui.
Alex savait pas que j'allais au magasin. Il avait un rendez-vous super important. Il est pour rien.
C'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai.
Oh, qu'est-ce que t'es mignon. T'es à croquer. T'es mignon, mon petit lapin.
Maman.
Oh là là.
Quoi ? Tu nous laisses, il y a ton jeu télé qui commence.
C'est déjà l'heure ? J'ai pas fini ma vaisselle, moi.
Ben laisse, on va s'en occuper.
C'est vrai ?
Et après, on va au cinoche avec Alex.
Bon, bah, amusez-vous bien.
Merci.
Ça passe pas mal au son ?
Très bien, très bien. La voix de Valéria est magnifique.
Sur la forme, sur la construction, François Ozon, je ne pense pas que le livre soit comme ça. Enfin, vous allez me le dire. Vous avez choisi de commencer le film par la fin.
Alex... Pas vraiment par la fin.
Non, enfin, par l'aboutissement, je ne sais pas comment
pas
dire.
Pas vraiment non plus, parce que la fin est vraiment à la fin.
Oui.
Aux trois quarts, disons. En fait, en relisant le livre, le livre est écrit un peu comme une forme de puzzle, puisqu'il est raconté du point de vue d'Alex, qui n'arrive pas à formuler ce qu'il a vécu, n'arrive pas à raconter son été 85. Il va y arriver grâce à un professeur qui va lui dire ce que tu n'es pas capable de dire, peut-être qu'il faut l'écrire. Donc il va passer par un processus d'écriture. Et donc, j'ai essayé de faire en sorte que le spectateur suive un petit peu l'histoire à travers les yeux d'Alex et qu'on ait petit à petit les différents morceaux de cette histoire comme un puzzle qui s'assemble, et c'est vraiment à la fin qu'on a une vision complète de ce qui s'est passé. Après, on sait qu'il s'est passé quelque chose de dramatique dans cette histoire, mais on ne sait pas exactement où est le drame.
On reconstitue à la fin.
Absolument.
Mais quand même, dès le début, on sent qu'il y a quelque chose de...
Cet été a été à la fois magnifique et en même temps dramatique, les deux. Et c'est une expérience de vie très forte qu'a eu Alex pendant cet été.
On a entendu cet extrait là, et je ne sais pas si au son ça passait, en tout cas à l'image ça passe. Il y a une espèce de piège qui se fomente et qui se referme. Hein, c'est ça. Vous aimez ces thèmes-là, hein, de l'ambiguïté, de la manipulation. De l'emprise. Hein, on peut dire que ce sont vos thèmes favoris au cinéma, dans la vie, je ne sais pas.
Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est mes thèmes favoris. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la manipulation. La mise en scène, c'est de la manipulation. Hein. Moi-même, je manipule les spectateurs en faisant mes films. Je ne donne pas toutes les infos. On décide de raconter une histoire d'une manière ou d'une autre.
Mais dans la vie
et dans la vie, un peu moins quand même. Hein. Dans la vie, non. Mais je pense qu'on se raconte tous des histoires aussi. La fiction est très importante dans la vie aussi. Donc, moi, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qui nous raconte son histoire, et en la racontant, il l'invente en partie, parce que tout souvenir est une forme d'invention. Donc, il y a tout ça qui est mélangé, qui fait la richesse de cette histoire.
Pourquoi Alexis, Alex, c'est le même, hein, est-il obsédé par la mort? C'est la moindre des choses quand on est adolescent?
Je pense que, oui, c'est une obsession de beaucoup d'adolescents, d'avoir... un goût pour les limites, de l'idée de la transgression, et la mort apparaît comme une limite qu'on a envie de tester. Il y a beaucoup de comportements suicidaires au moment de l'adolescence. J'avais fait un film qui s'appelle Jeune et Jolie, qui parlait aussi déjà cette fascination un peu morbide qu'on peut avoir à cette période. On se croit immortel. A priori, on ne va pas mourir à 16 ans ou 17 ans. Donc ça, c'était important. Et ce qui m'a plu aussi, c'est en reprenant cette histoire, je me suis rendu compte que j'ai lu le livre dans les années 80, au même moment où le sida nous est tombé dessus, tous les jeunes de cette génération, où notre découverte de la sexualité était liée à la mort. Et je pense que ce livre, s'il a été culte un peu à ce moment dans une petite communauté, c'est parce qu'il y avait une métaphore aussi de ce que pouvait être le sida pour la jeunesse aujourd'hui.
Et ce film sort... lors d'un été, l'été 2020, qui est placé sous le signe du Covid.
Ouais.
Mais ça, c'est vrai pour...
Ça, c'était pas voulu.
Non, j'imagine bien.
C'était pas désiré du tout.
Ouais. Mais c'est vrai pour tous les films qu'on peut voir maintenant. Ouais. On se dit, ils sont en train de s'embrasser. Mais y a ce réflexe-là.
Absolument. Et ça crée un sentiment... en ayant rencontré beaucoup de spectateurs, on se rend compte que ça crée un sentiment très nostalgique et de « c'était mieux avant », voilà, de « paradis perdu ».
Vous trouvez, vous ?
Non, moi, je ne trouve pas du tout. Pour moi, les années 80 étaient des années compliquées aussi, des années ingrates. C'est l'explosion du chômage, c'est cette maladie, le sida, c'est l'hyperlibéralisme, c'est Reagan aux États-Unis, on a Trump aujourd'hui, c'est Margaret Thatcher en Angleterre. Les choses n'étaient pas roses. Mais c'est vrai que la patine du temps donne une impression différente. On ne garde que les bons souvenirs.
L'un des autres thèmes de ce film, c'est le déterminisme dans la vie.
Oui.
C'est-à-dire qu'il soit... social, évidemment, puisqu'ils ne sont pas du même milieu, tous les deux, les deux gamins. Et sexuel aussi.
Absolument.
Et là, vous attendez une question, peut-être.
Non, mais il y a quelque chose de l'ordre de la résilience dans cette histoire. Et ce qui est beau, c'est qu'Alex, qui est d'un milieu ouvrier, un père docker, qui est plus ou moins prédestiné à avoir une vie d'enfant d'ouvrier, finalement, il va peut-être trouver sa voie aussi bien sentimentale, sexuelle, que professionnelle à travers l'écriture. Et ça, je trouvais que c'était beau de raconter ça.
Si on pense à Alex après le film,
ouais.
Hein, c'est une fiction, je sais bien, mais admettons que l'histoire se poursuive.
Ouais.
Il est traumatisé par cette première histoire ou il est porté à jamais?
Les deux, je pense.
Ah non, pas les deux.
Non, il est traumatisé, mais il en fait quelque chose. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a toute une réflexion sur la création artistique. Alors, il se trouve que c'est l'écriture, mais ça pourrait être le cinéma. faire quelque chose des blessures qu'on peut ressentir, vivre intensément. Il arrive à faire de la culpabilité qu'il a pu ressentir de cette histoire, il arrive à faire quelque chose et trouver son chemin. Mais c'est quand même porteur d'une très grande mélancolie.
Et vous, à cet âge-là, vous étiez plutôt Alex ou David ?
Ah ben moi, j'ai été Alex. C'est maintenant que je suis David.
Il a fallu 35 ans pour que j'arrive à David.
Non, je suis devenu David un peu plus tôt quand même, hein, merci.
François Ozon est dans Culture Média ce matin. Ouais, on peut réécouter The Cure, vous n'avez pas fini de l'entendre. On revient tout de suite, bonne matinée à vous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Pour une vingtaine de minutes encore, nous sommes en compagnie du réalisateur François Ozon. Son film Été 85 sort demain. On l'a dit tout à l'heure, François Ozon, Été 85 arrive après Grâce à Dieu, hein, gros succès, primé à Berlin. Grâce à Dieu qui retraçait le combat de victimes de prêtres pédophiles à Lyon. Est-ce que chaque film que vous envisagez, que vous réalisez, arrive en réaction à celui d'avant ? Ça se passe comme ça, votre carrière de cinéaste ?
Bah souvent, c'est vrai qu'une fois qu'on sort d'une aventure, on a envie de passer à autre chose, on a envie d'autre chose. Après, Grâce à Dieu, qui était quand même très éprouvant, oui, j'avais envie de soleil, j'avais envie de plage, j'avais envie d'insouciance. Même si le film Été 85 n'est pas si insouciant que ça, mais j'avais envie de cette légèreté-là. Et donc, oui, on fait le film toujours un peu comme le contre le précédent, mais on essaye d'aller autre part. Moi, comme j'aime tourner, j'essaye de faire un film par an, j'ai pas envie de me répéter. Alors forcément, il y a des motifs, des thèmes qui reviennent d'un film à l'autre, mais j'aime bien aller d'un genre à l'autre.
Et pourquoi faites-vous un film par an ? Pourquoi tournez-vous autant ? C'est pas un reproche,
bah, si je pouvais, j'en ferais plus, hein, si j'étais pas obligé de faire la promo.
Salut, allez, à bientôt.
Non mais moi j'adore tourner, c'est un vrai plaisir. Il y a des cinéastes à une époque qui tournaient 3-4 films par an, hein, aux États-Unis. Bon, après, comme j'écris mes films, ça prend quand même du temps, mais le rythme d'un par an, ça me convient tout à fait.
Mm-hmm. Ce qu'il y a autour, c'est qu'il faut aussi trouver le financement, tout ça.
Voilà, alors moi j'ai la chance de faire des films qui sont viables économiquement. J'ai été élevé auprès de cinéastes comme Éric Rohmer, qui était très proche de la production, qui savait le coût des choses. J'ai fait beaucoup de courts-métrages, donc je fais en sorte que mes films soient viables. Et j'ai jamais fait des films avec des budgets pharaoniques. Donc je suis toujours plus ou moins retombé sur mes pieds financièrement, ce qui permet de faire le film d'après.
Vu de vous, l'après Été 85 est déjà prévu, puisque vous tournez à la fin du mois, c'est ça déjà ?
Oui.
Quel rythme !
Donc j'aurais dû tourner pendant le Covid, en fait.
Ah oui, oui. Bon, on va considérer que le prochain film est peut-être en opposition à Été 85. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de l'adaptation d'un roman aussi, d'une amie, Emmanuelle Bernheim, dont j'étais très proche, avec qui j'ai écrit Tout s'est bien passé, qui est décédée il y a quelques années, et qui avait écrit un livre qui s'appelle donc Tout s'est bien passé, où elle raconte de manière autobiographique comment elle a aidé son père à mourir en Suisse.
Vous tournez avec, je précise qu'Emmanuelle Bernheim, pour ceux qui ne savent pas, est elle-même disparue il y a 3 ans. Au casting, j'ai lu André Dusselier et Sophie Marceau.
Oui.
Bah, c'était ça le clin d'œil à la
Exactement.
Boum dans Été 85.
Absolument.
Si vous allez voir Été 85, vous verrez, vous ne pouvez pas le louper, le clin d'œil à la Boum. Non, tout ça est lié, vraiment ou...
En tout cas, c'est un teen movie que j'ai vu dans les années 80, la Boum, qui a été très important. Et donc, c'était un peu évident pour moi de faire ce lien. Après, Sophie Marceau, c'est une actrice que j'aime beaucoup, avec qui on s'est souvent croisés. Et voilà, et sur ce film-là, on part ensemble.
Ah ouais, première fois.
Première fois. Toute première fois.
Oui, toute première fois, bah oui. On en revient toujours à des tubes des années 80, 85. Nous sommes arrivés au moment de l'incontournable. Vous savez, François Ozon, vous ne savez pas d'ailleurs que dans cette émission, nous aimons faire passer, donner des conseils. Et je salue Fred Goati. Bonjour Fred.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Alors il y a 10 ans, encore un anniversaire, le chanteur Prince donnait un concert mémorable au New Morning à Paris. Et vous y étiez ?
Tiens donc, et oui, il y a effectivement 10 ans, jour pour jour, ou presque, hein, c'était précisément le 10 juillet 2010, Sa Majesté Prince avait fait du New Morning son royaume. Alors souvenir, il était déjà très tard, ou très tôt, 3h du matin environ, Prince s'était mis à chanter « Sometimes it snows in April », parfois il neige en avril, et sous le coup de l'émotion, d'aucunes et d'aucuns, c'était improvisé, choriste. Alors la justesse n'était pas toujours au rendez-vous, mais croyez-moi, le cœur y était. Je ne chantais pas sur ce morceau. Ironie du sort, c'est le 21 avril 2016 que Prince est parti dans son monde d'après et véridique, il neigea à Paris le lendemain. Mais c'est en cette nuit de juillet 2010, moyennant 80 euros, en cash s'il vous plaît, à jeter dans ce seau, là oui, merci, les quelques centaines d'euros qui avaient pu entrer au New Morning n'en sont toujours pas revenus. Pendant 4 heures, sans entracte, Prince a joué littéralement à hauteur d'homme, sans distanciation sociale, en tombant le masque de la superstar, bref, en étant tout simplement musicien. Et entre ses propres tubes, Kiss, Scream ou encore Purple Rain, bien sûr, il s'amusait à reprendre ceux des autres. Miss You des Rolling Stones avec en prime, eh oui, une imitation assez jubilatoire du Mick Jagger, il n'y a pas que Carla Bruni. Allez, c'est cadeau.
Fred Goati, on sait que Prince était très attaché à Paris, qu'il a souvent joué dans la capitale, qu'il y a même vécu, je crois. Mm-hmm. Mais pourquoi un club de jazz? Pourquoi le New Morning?
Parce qu'il adorait effectivement Paris, parce qu'il a habité Avenue Foch, oui, et affiché complet dans les plus célèbres salles de la capitale, le Palace, le Zénith, le Bataclan, Bercy, le Grand Palais, le Stade de France, et bien sûr le Parc des Princes, pardon, des Princes. Mais le New Morning représentait quelque chose de très spécial pour lui. C'était son club de jazz, il s'y rendait régulièrement, en simple spectateur. Il s'asseyait discrètement là sur le frigidaire derrière le bar pour mieux voir. Et puis surtout, il y aura joué 3 fois au New Morning. En 2010 donc, mais aussi en 86 avec son père, pianiste de jazz lui-même. Et en 87, ah, 87, c'était presque aussi bien que 85, c'était son Annus Mirabilis, celle, nous y voilà, de Sign of the Time, son chef-d'œuvre absolu, un double album qui faisait voler en éclats les barrières. Passer les bornes, il n'y avait plus de limites. Prince, c'était rock, soul, funk, jazz, électro, rap, tout ce que vous voulez. Tiens, il y avait même une pop song matinée de gospel, idéal pour se réveiller le matin, après une nuit de folie, au New Morning ou ailleurs d'ailleurs. It was 7:45 on the line to meet the teacher, Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. Starfish and Coffee. C'est donc ce disque qui ressort à la rentrée en édition Super Deluxe. Qu'est-ce qu'on trouvera dedans? Est-ce que c'est vraiment super de luxe? Ah, c'est super de luxe, c'est super excitant et c'est super bien. Ça risque d'être un peu super cher aussi, ouais. Mais ça, c'est pas grave. Eh bien, comme c'est désormais l'habitude depuis que le Prince Estate, en français, ses ayants droit, gère ses faramineuses archives, des centaines, voire des milliers de morceaux inédits enregistrés entre 1978 et 2016, Prince va se faire coffret à titre posthume le 25 septembre prochain. Et cette très attendue édition super de luxe, donc de Sign of the Time, contiendra des live audio, des vidéos, plus de 40 chansons inédites, dont une avec un certain Miles Davis à la trompette. Alors ce sera un choc émotionnel qui fera écho à celui qu'on avait ressenti en découvrant, en 1987, cette chanson futuriste et toujours d'actualité qui donnait son titre à l'album Sign of the Time. Donc. Baby, 'cause she couldn't afford to feed it, and was sending people to the moon. In September, my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ah, on l'écouterait bien en entier, franchement. Ah, oui. Ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup, Fred Goati, directeur de la rédaction de Jazz Magazine. François Ozon, c'était pas mal, 87 aussi, hein, franchement.
Oui, je l'ai vu en concert, moi, Prince. Mais alors, c'était au Zénith, c'était en 87?
Alors, Zénith, il a fait 86, 98, ah, 86. Des 2002 et 2014.
Je crois que j'ai vu en 86. C'est bien, bravo, vous connaissez toutes les dates.
Ah, oui. Finalement, été 86, ça aurait été bien aussi.
Ça aurait été... Bah, par rapport au sida, non.
Non, c'est vrai.
Voilà, ça aurait été un peu plus compliqué.
Rapidement, vous, François Ozon, vous avez quelque chose à nous conseiller? Quelque chose que vous avez beaucoup aimé dernièrement?
À brûle pour point, là, non.
Bah, réfléchissez. Hein,
oui, je vais réfléchir.
On a justement une petite page de pub.
D'accord, ça
tombe
bien.
Au moins que ça serve à ça.
Oui.
On revient pour se dire au revoir. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Et dernière ligne droite, en compagnie du réalisateur François Ozon, vous avez trouvé une recommandation ou...
Je vous ai parlé tout à l'heure d'un film américain, un vieux film. Il y a une rétrospective des films pré-Code Ace. Des années 30.
Alors, il faut rappeler Code ACE.
Code ACE, c'était la censure américaine qui empêchait des baisers, de parler de certains thèmes dans les films américains. Du coup, les réalisateurs étaient obligés de trafiquer leur scénario, enfin, ou de jouer à travers la mise en scène pour suggérer des choses, mais ils ne pouvaient pas aborder frontalement certains thèmes. Et en fait, avant ce Code ACE, il y a eu des films qui sont assez transgressifs, et j'en ai vu un justement avec Jean Harlow, une actrice assez oubliée, qui était l'idole de Marilyn Monroe, avec des personnages féminins incroyables, qu'on n'oserait même pas écrire aujourd'hui.
Surtout pas aujourd'hui peut-être.
Surtout pas aujourd'hui, oui, c'est pas très MeToo, mais des femmes d'une force incroyable.
Ouais, parce que vous en plus, vous y connaissez en transgression, donc vous pouvez dire que ça l'est.
Oui, oui, un petit peu.
Romance, amour, souffrance dans le nouveau Ozon, demain dans les salles avec deux jeunes comédiens irradiants, Félix Lefebvre, Benjamin Voisin. Vous allez les suivre évidemment après ça.
C'est j'espère.
C'est comme une, quelque chose de, même sans Cannes, même sans gravir les marches. Une responsabilité quand même de votre part.
Quand on commence avec des jeunes acteurs comme ça, on a envie que l'histoire continue. Mais ils sont très bien partis puisque tous les deux, ils ont plein de projets. Benjamin avait déjà tourné quelques films avant le mien. Félix, c'est un peu le premier dans lequel il a un premier rôle, mais ils ont plein de propositions. Donc j'espère que ça va bien continuer pour eux.
Le film va vous échapper dès demain et vivre sa vie dont vous ne savez rien. Oui, enfin.
C'est bien d'échapper à ces films.
Oui, c'est vrai.
Ouais.
Dans quel état êtes-vous la veille de la salle, en fait ?
Je suis un peu fatigué de la promotion, mais je suis heureux que le film sorte et que le public s'en empare, qu'il vive sa vie.
Mm-hmm. Quand vous commencerez le tournage du prochain film, c'est-à-dire très bientôt, est-ce que votre sentiment sur le tournage sera en fonction de l'éventuel succès du film d'avant ou...
Bah, je ne peux pas vous dire, faut me réinviter d'ici 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas du tout.
Non mais voilà.
Oui, évidemment, on est influencé par plein de choses quand on est sur un tournage. On est une éponge à plein d'émotions. Mais j'ai la capacité de tourner la page assez facilement, de rebondir. Et voilà, je suis déjà sur le prochain film dans ma tête, en tout cas.
Quel est le titre de ce prochain film ?
Tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé, oui. Donc c'est vraiment l'adaptation... du livre signé Emmanuel Bernheim. Et la suite, vous la connaissez ? Vous avez plusieurs coups d'avance ?
Pas du tout. Non, les gens s'imaginent que j'ai plein de films d'avance. Mais
bien sûr qu'on s'imagine ça.
Vous voyez, La danse du coucou était 85, je l'ai depuis 35 ans dans ma tête, il m'a fallu 35 ans.
Mais il y en a d'autres ?
Forcément, il y a des idées, mais l'inspiration, c'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est le désir. C'est de s'accrocher à une histoire et savoir que c'est celle-là que vous avez envie de raconter à ce moment-là.
Mais le désir sans inspiration...
Oui, évidemment. Mais moi, je trouve que l'inspiration, il suffit de regarder autour de soi, elle est partout.
Elle est partout, c'est comme le Covid.
Voilà, exactement. Elle nous entoure.
Oui. Merci beaucoup, François Ozon, d'être venu dans Culture Média. Votre film était 85, demain dans les salles, évidemment, avec The Cure et aussi toute la musique qu'a décrit tout à l'heure Benoît Caprespine. Merci. Nous sommes arrivés à première page, car tout l'été, vous découvrez en avant-première les débuts des romans de la rentrée. Ce matin, Radical de Tom Conan, sorti le 20 août chez Albin Michel. Je n'avais pas eu de relation depuis des mois. Mes études et mon travail m'accaparaient et je donnais l'impression à mes proches d'être sans cesse affairé. On s'investit toujours dans quelque chose pour combler un manque. J'avais pris du poids et il m'arrivait même, en rentrant des cours, de regarder pendant des heures les débats de la chaîne parlementaire sur la taille des filets de pêche ou les nouvelles règles de taxation des plus-values immobilières. Dans un état de semi-conscience, je me plantais sur mon deuxième écran, mon iPhone, la télé ne jouant le rôle que de trame de fond. Et je restais là, seul, à végéter. La France était devenue un pays sinistre, où les boutiques de luxe et la haute gastronomie servaient de cache-misère à une économie en déclin, pendant que les classes moyennes fusionnaient avec les catégories populaires pour former une masse protubérante. L'élection d'un président adepte de l'agilité et du modernisme n'avait pas su ôter le mal qui rongeait la société depuis 4 décennies, l'immobilisme. Plus personne ne croyait en rien, du moins chez les esprits sains. Le pays agonisait, et moi avec. Radical de Tom Conan, sorti le 20 août chez Albin Michel. Culture Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous serons demain de retour, bah oui, en compagnie du journaliste de Mediapart Fabrice Arfi, du metteur en scène de théâtre Thomas Joly, ainsi que le producteur du feuilleton de France 2, Un si grand soleil. Belle journée à vous, à l'écoute d'Europe 1.